Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour et bienvenue dans Accent d'Europe. Après quasiment 6 mois de mobilisation et à quelques jours des élections européennes, les agriculteurs continuent à protester. Et cela malgré les nombreuses mesures annoncées par la Commission européenne en leur faveur en mars dernier. L'obligation de laisser 4% de terres cultivables en jachère est suspendue. La rotation des cultures et le maintien des prairies permanentes ne sont plus obligatoires. Les petites exploitations n'auront plus à payer de pénalités si elles ne respectent pas les critères environnementaux. Mais ce lundi, les agriculteurs manifestaient à la frontière franco-espagnole en attendant demain un grand rassemblement à Bruxelles contre le pacte vert, contre les accords de libre-échange et l'abandon des tarifs douaniers pour les céréales ukrainiennes. Les agriculteurs polonais, très mobilisés, seront au rendez-vous. Notre correspondant, Adrien Sarlat, a assisté à leurs derniers préparatifs.
Vous en faites pas, ils mordent pas. Ils sont très gentils.
Au milieu de ces 1500 cochons, Janusz Terka est déjà en train de planifier son voyage vers Bruxelles. Et avec ses camarades, ils ne prendront pas l'avion.
On va voyager en bus, car certes, c'est un des moyens de transport les plus rentables, mais si on s'intéresse à l'environnement, c'est aussi le plus écologique. On a calculé qu'un vol aller-retour de la Pologne vers Bruxelles consomme autant de carburant que tous les tracteurs de ma ferme sur un an.
Un pied de nez au discours des politiques qui les accusent d'être anti-écologie en s'opposant au pacte vert. Mais pour Janusz, ces accusations ne sont pas honnêtes.
Ça, c'est de l'hypocrisie de la part de l'Union européenne. Nous sommes pour un pacte vert, mais pas dans cette version. Car ce pacte-là, c'est seulement de l'idéologie. Nous, on veut des solutions pratiques, en faveur de l'écologie. Et on pense que ces solutions qui nous sont proposées pour l'instant n'ont rien à voir avec la protection de l'environnement.
Il dénonce notamment l'obligation de garder une partie de ses terres en jachère. Ces derniers mois, il s'est érigé en leader de la contestation agricole à l'échelle locale et il a convaincu ses voisins de venir avec lui pour manifester à Bruxelles. Son ami, Dariusz Wojko, lui, reste motivé malgré une situation qui semble s'enliser.
Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, il y a toujours de l'espoir.
Lui produit du blé, du seigle et de l'orge et il fustige surtout l'arrivée massive de grains ukrainiens sur le sol polonais depuis que l'Union européenne a levé les droits de douane au début de la guerre.
Les prix se sont effondrés, on ne peut pratiquement plus vendre nulle part. On avait des difficultés et elles n'ont fait que s'amplifier. Le prix du blé, à l'époque où il était le plus haut, était à 1600 zloty la tonne, 370 euros. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 150 euros. Merci l'Ukraine.
Sa voisine, Ella Masłowska, tient cependant à remettre les choses dans leur contexte.
Nous ne sommes pas contre l'Ukraine, car n'importe qui s'intéresse au problème comprend vite que ces céréales ne viennent pas de petits producteurs comme nous, mais plutôt d'immenses industries qui ont leur siège au Luxembourg ou à Chypre. Et nous ne serons jamais en mesure de concurrencer ces exploitations à plusieurs millions d'euros, car nous sommes bien plus limités. Ils utilisent des herbicides et d'autres produits qui nous sont interdits. Alors pourquoi ce grain vient-il jusque chez nous en Pologne? Et pourquoi pourrait-il être acheté ici alors que sa production est interdite dans l'Union européenne?
L'entrée de la Pologne dans l'Union il y a 20 ans a aidé cette productrice de porc et de bœuf à acheter des machines et des bâtiments pour développer son exploitation. Mais aujourd'hui, elle se sent piégée par des aides européennes devenues indispensables, mais qui limitent sa productivité.
Aujourd'hui, ces aides sont accompagnées de conditions tellement difficiles à satisfaire qu'avec le recul, je me demande si on n'aurait pas préféré décliner les subventions européennes et continuer à ne percevoir que l'argent issu de notre production, parce que la situation est devenue vraiment difficile aujourd'hui.
La date de demain n'a pas été choisie au hasard par les agriculteurs. 5 jours avant les élections au Parlement, ils veulent ramener les enjeux agricoles au centre du débat européen.
Le thème de l'agriculture met tout le monde mal à l'aise et personne ne veut s'y intéresser. Je ne sais pas pour qui je vais voter, car quand on regarde les candidats dans notre région, aucun ne s'exprime sur le sujet pour l'instant.
Ces accusations, Marek Sakovic les connaît par cœur. En avril, ce représentant d'un des partis de la coalition au pouvoir a reçu la visite d'agriculteurs munis de fumier, d'excréments d'animaux et de bottes de paille dans sa permanence à Białystok.
Quelques dizaines de personnes sont venues nous voir avec des cadeaux de leur fabrication. Et disons que ça n'était pas des cadeaux qui sentaient très bon. Et ils avaient des revendications très précises.
Le quartier général de son parti a été assiégé pendant plusieurs heures. Le temps pour les agriculteurs de convaincre Marek sur certains points. Le représentant rejette l'abandon pur et simple du pacte vert, voulu par les agriculteurs, mais il se dit favorable à des modifications de son contenu.
C'est un document qui garantit la sécurité environnementale de mes enfants et de la génération à venir dans le secteur de l'industrie, du transport, de la production. Mais si des agriculteurs français, belges, italiens, espagnols, polonais, allemands contestent ensemble ces mêmes règles, alors c'est qu'il y a un vrai problème. L'Union européenne devrait s'alarmer et se dire « peut-être qu'on est allé trop loin, peut-être qu'on a fait une erreur, peut-être qu'on a manqué de pédagogie ou autre ».
Ce jour-là, la manifestation s'est terminée dans le calme, après des heures de discussion.
Et je vais vous surprendre, mais à la fin, on s'est salués. Ils ont remporté avec eux les cadeaux qu'ils avaient apportés dans nos bureaux et ils ont nettoyé avant de partir.
Mais Yanouch et ses confrères continueront de se battre jusqu'au retour des droits de douane à la frontière ukrainienne et la suppression pure et simple du pacte vert européen.
Il ne suffit pas d'être élu pour avoir du poids au Parlement européen, il faut siéger au sein d'un groupe. Normalement, les discussions ont lieu après les élections, quand chaque parti national mesure le poids politique qu'il peut avoir dans la nouvelle Assemblée européenne. Mais cette année, les responsables préfèrent anticiper, ce qui n'est pas un mal pour la démocratie. L'électeur est en droit de savoir avec qui les députés pour qui il vote ont l'intention de s'allier. Mais aujourd'hui, ces pourparlers deviennent en eux-mêmes un argument de campagne, avec la plupart du temps l'extrême droite au cœur des discussions. C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
À quelques jours du vote, l'AfD, Alternative für Deutschland, a censuré sa propre tête de liste, Maximilian Kra. Ce représentant de l'extrême droite n'a plus le droit de faire campagne à cause de la déclaration de trop dans le quotidien La Repubblica. Selon lui, tous les SS n'étaient pas des criminels. Ses alliés européens, comme Marine Le Pen, n'ont pas apprécié non plus.
L'AfD va de provocation en provocation. On a temporisé, j'ai eu l'occasion de prendre mes distances. Maintenant, il n'est plus temps de prendre nos distances. Il est temps d'acter la rupture avec ce mouvement qui n'est pas dirigé et manifestement qui subit l'emprise de groupements radicaux en son sein.
Honnêtement, la mise en sourdine de Kra n'est pas une surprise. Il traîne des casseroles pour le moins bruyantes. Un de ses proches collaborateurs a été arrêté pour espionnage au profit de la Chine. Kra lui-même est au cœur de deux enquêtes, car il aurait touché de l'argent de Pékin et de Moscou. Et au sein même de l'AfD, qui n'est pas franchement le temple du politiquement correct, beaucoup le jugent trop radical et raciste. Un boulet pour ceux qui veulent lisser leur image, mais pas pour tout le monde. Eva Vlaar est une jeune influenceuse politique néerlandaise.
Le fait qu'encore une fois Marine Le Pen, mais aussi Matteo Salvini, utilisent cette déclaration pour se distancier de l'extrême droite en Europe, comme ils disent, deux semaines avant les élections, je me dis bon sang. C'est exactement la raison pour laquelle nous ne gagnons jamais. Vous laissez encore la gauche vous dicter ce que vous avez le droit de dire ou non.
Notez que la lutte contre le révisionnisme historique n'est pas spécialement de gauche, mais c'est un autre sujet. Le 23 mai dernier, donc, le groupe Identité et Démocratie a exclu ses 9 eurodéputés allemands. Un autre groupe est en pleine recomposition et aussi à cause de l'extrême droite. Au sein de Renew, les libéraux, on est très gênés par les Néerlandais, car aux Pays-Bas, ils sont sur le point de former un gouvernement avec le PVV de Geert Wilders. L'Italien Sandro Gozzi dénonce ses propres alliés européens.
Mais pour moi, c'est une grave erreur. Je ne le ferai jamais. En Italie, en France, je me bats contre Salvini, Meloni, Éric Zemmour et Marine Le Pen. La présidente du groupe a dit qu'on en discuterait le 10 juin. Ce sera le premier point à l'ordre du jour. Et puis, ce sera une décision. Ce n'est pas moi, candidat tête de liste, qui devra prendre les décisions. Nous sommes un groupe parlementaire. Il y a une décision à la majorité.
Rien n'est fait. Et si les Français sont aujourd'hui largement majoritaires à Renew, ils devraient perdre des plumes et des députés. Il n'est donc pas certain que la présidente Valérie Ayé parvienne à imposer ses vues. C'est d'autant plus compliqué que le PPE, la principale force du Parlement européen de droite, se met, lui, à fricoter avec ECR, les conservateurs et réformistes, dirigés par Giorgia Meloni, qui s'est quand même formée en politique avec les néofascistes romains. Pour la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, la chef du gouvernement italien est très compatible avec les institutions européennes.
Nous allons mettre les sujets sur la table et voir qui sont les pro-européens. Et elle est clairement pour l'Europe, contre Poutine. Elle a été très claire sur ce point. Nous allons aussi voir qui sont les partisans de l'état de droit. Si c'est le cas, nous proposerons de travailler ensemble.
Les Espagnols de Vox, les Polonais du PiS, les Français de Reconquête sont aussi dans le groupe ECR. Et en termes de défense de l'état de droit, leur position est loin d'être aussi claire. Résumons. Un groupe d'extrême droite exclut un parti car trop extrémiste, un autre groupe se fait draguer par la droite traditionnelle et les libéraux se divisent sur une alliance nationale avec l'extrême droite. La recomposition en cours au sein de l'Union européenne traduit vraiment un changement d'époque politique.
Secondo me dice cose che tutti pensano, lui ha avuto il coraggio di dirle.
Io spero che Vannacci ci faccia uscire fuori dall'Europa, come la Brexit.
Changement d'époque également en Italie, où la Ligue de Matteo Salvini tente de se positionner à la droite de Giorgia Meloni et de son parti post-fasciste Fratelli d'Italia. Dans un geste qui s'adresse peut-être aux déçus du mélonisme, Matteo Salvini a nommé le très controversé général Roberto Vannacci tête de liste pour les européennes. Suspendu de ses fonctions militaires après la publication d'un pamphlet raciste et homophobe, le général défend désormais le slogan de la Ligue « Plus d'Italie, moins d'Europe ». Cécile de Barge s'est rendue dans le sud de la région des Marches, à Ascoli Piceno, où le général présentait son dernier livre devant une salle comble qui lui a réservé une standing ovation.
11h du matin au Palais des Capitaines, centre historique d'Ascoli Piceno. Le général Roberto Vannacci fait son entrée sous les fresques du XVIIIe et XIXe siècle qui surplombent la salle de la raison. Le public se lève, les mains se tendent à son passage. Environ 150 personnes ont fait le déplacement.
Bonjour, bonjour Ascoli. Merci, merci vraiment d'être là. On est un mardi matin et la salle est pleine et ça en dit long sur votre position, votre sympathie et celle d'Ascoli et des Marches envers moi et envers la Ligue.
En quelques mois, ce militaire des forces spéciales qui a combattu en Somalie, en Afghanistan ou au Yémen est devenu le visage de la frange la plus à droite du paysage politique italien. Giorgia Latini est la secrétaire régionale de la Ligue, le parti d'extrême droite de Matteo Salvini, dans les Marches.
Ce sont les personnes qui sont ici qui donnent encore de l'espoir en soutenant le général Vannacci. Et la Ligue qui est le seul parti qui dit clairement non à von der Leyen, non aux socialistes et non à la gauche en Europe.
Le général Roberto Vannacci a fait une entrée fracassante dans le paysage politique italien à la fin de l'été dernier. Son premier livre, Le Monde à l'envers, s'est vendu à près de 250 000 exemplaires. Il y défend la normalité, le bon sens et l'exclusivité en opposition à une société inclusive et s'en prend au passage à toutes les minorités qui ne rentreraient pas dans le moule du peuple italien auquel il tient tant. Écologistes, migrants, féministes, communautés LGBT+. Un discours qui séduit, parmi le public, Davide est étudiant en génie biomédical à l'université d'Ancône.
Ces dernières années, ce qui s'est passé, c'est que les minorités ont piétiné les traditions qui sont les racines de l'Italie, mais aussi des autres nations.
Surtout, le militaire apparaît pour beaucoup comme un homme anti-système, là où certains regrettent que l'actuel gouvernement de Giorgia Meloni ne soit pas assez dur. Philomena est médecin urgentiste.
Ils sont beaucoup trop cléments à mon goût. Je le répète, je ne donnerai pas ma voix à Meloni, mais je ne trahis pas mes idées.
Cette sexagénaire déplore tour à tour l'état du système de santé italien, détruit selon elle par les précédents gouvernements, mais aussi une société où les jeunes générations sont en manque de repères.
Meloni avait un devoir bien précis, et je lui en tiens rigueur. Elle devait faire partir toutes les personnes qu'elle a trouvées au pouvoir. Il suffisait de faire tomber un maillon de la chaîne et tous les autres auraient suivi, ça aurait donné un signal.
Domenico votera lui aussi pour le général Vannacci. Ce producteur d'huile d'olive extra vierge apprécie en particulier son franc-parler.
Il n'est pas membre du parti, c'est un indépendant. C'est un indépendant et c'est important vu l'état de censure qui existe. tous ceux qui ne sont pas dans la pensée dominante sont ostracisés.
Ce discours est omniprésent pendant les deux heures que dure la présentation. Roberto Vannacci défendrait la normalité dans un monde qui marche à l'envers, comme le prétend le titre de son premier livre, et serait censuré de toutes parts.
Si on s'oppose à la théorie du genre, on est homophobe. Si on dénonce l'immigration incontrôlée, on est raciste.
Son programme se résume essentiellement à son positionnement à la droite extrême de l'échiquier politique italien et à ce fameux bon sens, une formule déjà largement plébiscitée dans le passé par Matteo Salvini. Le chef de la Ligue fait avec sa nomination comme tête de liste le pari risqué et contesté dans les rangs de son parti de se replacer à droite de la droite, là où il avait été doublé par l'actuel chef du gouvernement, Giorgia Meloni.
C'est avec vous que je passe un contrat et avec personne d'autre. Ce n'est pas avec la planète ou avec l'humanité. Moi, je veux défendre les intérêts des citoyens italiens qui doivent pouvoir sortir de chez eux sans avoir peur d'être agressés, sans devoir mettre des barreaux à leurs fenêtres, fermer leurs portes, mettre des alarmes dans leurs voitures ou des chaînes sur leurs motos de peur qu'on leur les vole.
Dans cette région rurale, il sait aussi séduire les agriculteurs dans la mobilisation cet hiver contre les politiques européennes et pour lui du pain béni.
J'aimerais défendre les intérêts des propriétaires italiens pour qu'ils n'aient pas à dépenser 60, 70, 80 000 euros pour rénover leur maison selon les normes énergétiques. Et je veux défendre les intérêts des agriculteurs qui ne doivent pas laisser 4% de leurs terres en jachère pour protéger la biodiversité. Et ce sont des bêtises qu'on leur impose.
Tête de liste pour la Ligue dans les circonscriptions d'Italie centrale, Roberto Vannacci le promet. S'il n'est pas élu, il retournera à sa carrière militaire. Pour le moment, il est encore sous le coup d'une suspension de 11 mois décidée par le ministre de la Défense suite à la publication de son pamphlet.
L'Irlande a peut-être produit le nouveau tube de l'été 2024 avec The Spark, un rap devenu viral en quelques jours. Le clip a déjà des millions de vues sur les plateformes. The Spark a une particularité, ses auteurs ne sont autres que des enfants. Clémence Pénard.
Ils ont entre 9 et 12 ans et ces jeunes rappeurs irlandais ont pris d'assaut Internet. Depuis sa sortie le 15 mai dernier, le clip envahit les réseaux sociaux. Rien que sur X, anciennement Twitter, où la chaîne de télévision nationale RTE l'a partagé, la vidéo cumule 9 millions de vues. Ce morceau de drum and bass, un genre de musique électronique très populaire au Royaume-Uni, a été produit dans le cadre d'une initiative de rap pour la jeunesse à Cork, dans le sud-ouest du pays. Et d'ailleurs, le clip montre ces préados, une trentaine, qui chantent et dansent dans divers lieux emblématiques de la deuxième plus grande ville d'Irlande. Mais ils ne viennent pas tous de Cork. Certains des enfants qui ont participé à ce projet vivent dans un hébergement pour réfugiés. La réception de The Spark a été phénoménale. Les internautes louent l'optimisme et l'énergie de cette chanson, avec un refrain qui reste en tête. « J'ai cherché mon étincelle et je l'ai trouvée ». Ou encore les rimes de cette jeune fille. Je fais des bangers depuis mon plus jeune âge, mon stylo met le feu à la page. Et le titre rencontre du succès même de l'autre côté de l'Atlantique. Fans de musique, nous avons un nouveau tube totalement contagieux pour vous, a promis NPR, la radio publique américaine. Selon Gary McCarthy, le directeur créatif du Cabin Studio, le centre artistique pour les jeunes où a été conçu le morceau, le projet n'est pas commercial. Pourtant, beaucoup appellent désormais à ce que la chanson soit diffusée sur les plateformes de streaming musical.
The Spark, de et avec les enfants de la ville de Cork en Irlande, à retrouver dans le podcast d'Accent d'Europe sur l'appli Pure Radio, à la réalisation Françoise Grelot. On se retrouve demain, restez à l'écoute, l'info continue sur RFI. That's my passion and my content without.